Honoré de Balzac. Illusion perdue. Quarante-quatre. Le lendemain de cette conférence, le 30 avril, les frères Cointet firent présenter le premier des trois billets fabriqués par Lucien. Par malheur, l'effet fut remis à la pauvre Madame Séchard, qui, en reconnaissant l'imitation de la signature de son mari par Lucien, appela David et lui dit à brûle-pourpoint « Tu n'as pas signé ce billet ?»«
Non, lui dit-il.
Ton frère était si pressé qu'il a signé pour moi. » Ève rendit le billet au garçon de caisse de la maison Cointet Frères en lui disant « Nous ne sommes pas en mesure. » Puis, en se sentant défaillir, elle monta dans sa chambre où David la suivit. « Bon ami, dit Ève à Séchard d'une voix mourante, cours chez messieurs Cointet, ils auront des égards pour toi. Prie-les d'attendre. Et d'ailleurs, fais-leur observer qu'au renouvellement du bail de Cérizet, ils te devront 1 000 francs. » David alla sur-le-champ chez ses ennemis. Un prote peut toujours devenir imprimeur, mais il n'y a pas toujours un négociant chez un habile typographe. Aussi, David, qui connaissait peu les affaires, resta-t-il court devant le grand Cointet, lorsque, après lui avoir, la gorge serrée et le cœur palpitant, assez mal débité ses excuses et formulé sa requête, il en reçut cette réponse.
Ceci ne nous regarde en rien. Nous tenons le billet de Métivier. Métivier nous paiera. Adressez-vous à monsieur Métivier.
Oh, dit Ève en apprenant cette réponse. Du moment où le billet retourne à monsieur Métivier, nous pouvons être tranquilles.
Le lendemain, Victor Ange Herménégilde de Doublon, huissier de messieurs Cointet, fit le protêt à 2 heures, heure où la place du Mûrier est pleine de monde. Et malgré le soin qu'il eut de causer sur la porte de l'allée avec Marion et Kolb, le protêt n'en fut pas moins connu de tout le commerce d'Angoulême dans la soirée. D'ailleurs, les formes hypocrites de maître Doublon, à qui le grand Cointet avait recommandé les plus grands égards, pouvaient-elles sauver Ève et David de l'ignominie commerciale qui résulte d'une suspension de paiement? Qu'on en juge. Ici, les longueurs vont paraître trop courtes. 90 lecteurs sur 100 seront affriolés par les détails suivants, comme par la nouveauté la plus piquante. Ainsi sera prouvée, encore une fois, la vérité de cet axiome. Il n'y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir, la loi. Certes, à l'immense majorité des Français, le mécanisme d'un des rouages de la banque, bien décrit, offrira l'intérêt d'un chapitre de voyage dans un pays étranger. Lorsqu'un négociant envoie de la ville où il a son établissement un de ses billets à une personne demeurant dans une autre ville, comme David était censé l'avoir fait pour obliger Lucien, il change l'opération si simple d'un effet souscrit entre négociants de la même ville pour affaires de commerce en quelque chose qui ressemble à la lettre de change tirée d'une place sur une autre. Ainsi, en prenant les 3 effets à Lucien, Métivier était obligé, pour en toucher le montant, de les envoyer à messieurs Cointet Frères, ses correspondants. De là, une première perte pour Lucien, désignée sous le nom de commission pour change de place, et qui s'était traduite par un temps pour cent rabattu sur chaque effet, outre l'escompte. Les effets Séchard avaient donc passé dans la catégorie des affaires de banque. Vous ne sauriez croire à quel point la qualité de banquier, jointe au titre auguste de créancier,
change la condition du débiteur. Ainsi, en banque, saisissez bien cette expression, dès qu'un effet transmis de la place de Paris à la place d'Angoulême est impayé, les banquiers se doivent à eux-mêmes de s'adresser ce que la loi nomme un compte de retour. Calembour à part, jamais les romanciers n'ont inventé de compte plus invraisemblable que celui-là. Car voici les ingénieuses plaisanteries à la mascarille qu'un certain article du Code de commerce autorise et dont l'explication vous démontrera combien d'atrocités se cachent sous ce mot terrible, la légalité. Dès que Maître Doublon eut fait enregistrer son protêt, il l'apporta lui-même à messieurs Cointet et Frères. L'huissier était en compte avec ses loups-cerviers d'Angoulême et leur faisait un crédit de 6 mois que le grand Cointet menait à 1 an par la manière dont il le soldait, tout en disant de mois en mois à ce sous loup-cervier « Doublon, vous faut-il de l'argent ?» Ce n'est pas tout encore. Doublon favorisait d'une remise cette puissante maison qui gagnait ainsi quelque chose sur chaque acte. Un rien, une misère, 1 franc 50 centimes sur un protêt. Le grand Cointet se mit à son bureau tranquillement, y prit un petit carré de papier timbré de 35 centimes, tout en causant avec Doublon de manière à savoir de lui des renseignements sur l'état vrai des commerçants. « Eh bien, êtes-vous content du petit Ganrac ? Il ne va pas mal. Dame, un roulage ! Ah, le fait est qu'il a du tirage. On m'a dit que sa femme lui causait beaucoup de dépenses. « À lui ?» s'écria Doublon d'un air narquois. Et le loup-cervier, qui venait d'achever de régler son papier, écrivit en ronde le sinistre intitulé sous lequel il dressa le compte suivant. Sic. Compte de retour et frais. A un effet de 1000 francs. Daté d'Angoulême, le 10 février 1822. Souscrit par Séchard fils, à l'ordre de Lucien Chardon, dit de Rubempré, passé à l'ordre de Métivier et à notre ordre, échu le 30 avril dernier, protesté par Doublon, huissier, le 1er mai 1822. Principal, 1000 francs. Protêt, 12 francs 35. Commission à 1/2%, 5 francs. Commission de courtage, 1/4%, 2 francs 50. Timbre de notre retraite et du présent, 1 franc 35. Intérêt et port de lettres, 3 francs. Total, 1024 francs 20 centimes. Change de place à 1 1/4% sur 1024,20, 13 francs 25. Total, 1037 francs 45. 1037 francs 45 centimes, de laquelle somme nous nous remboursons en notre traite à vue sur M. Métivier, rue Serpente à Paris, à l'ordre de M. Ganerac de Loumeau. Angoulême, le 2 mai 1822. Cointet et Frères. Au bas de ce petit mémoire, fait avec toute l'habitude d'un praticien, car il causait toujours avec Doublon, le grand Cointet écrivit la déclaration suivante. Nous sous-signés, Postel, maître pharmacien à Loumeau, et Ganerac, commissionnaire en roulage, négociant en cette ville, certifions que le change de notre place sur Paris est de 1 1/4%. Angoulême, le 3 mai 1822. Tenez, Doublon, faites-moi le plaisir d'aller chez Postel et chez Ganerac, les prier de me signer cette déclaration et rapportez-la-moi demain matin. » Et Doublon, au fait de ses instruments de torture, s'en alla,
comme s'il se fût agi de la chose la plus simple. Évidemment, le protêt aurait été remis, comme à Paris, sous enveloppe. Tout Angoulême devait être instruit de l'état malheureux dans lequel étaient les affaires de ce pauvre Séchard. Et de combien d'accusations son apathie ne fut-elle pas l'objet ? Les uns le disaient perdu par l'amour excessif qu'il portait à sa femme, les autres l'accusaient de trop d'affection pour son beau-frère. Et quelles atroces conclusions chacun ne tirait-il pas de ses prémices ? On ne devait jamais épouser les intérêts de ses proches. On approuvait la dureté du père Séchard envers son fils. On l'admirait. Maintenant, vous tous qui, pour des raisons quelconques, oubliez de faire honneur à vos engagements, examinez bien les procédés parfaitement légaux par lesquels, en 10 minutes, on fait en banque rapporter 28 francs d'intérêt à un capital de 1000 francs. Le premier article de ce compte de retour en est la seule chose incontestable. Le deuxième article contient la part du fisc et de l'huissier. Les 6 francs que perçoit le domaine, en enregistrant le chagrin du débiteur et fournissant le papier timbré, feront vivre l'abus encore pendant longtemps. Vous savez d'ailleurs que cet article donne un bénéfice d'1,50 franc au banquier à cause de la remise faite par doublon. La commission d'un 0,5%, objet du troisième article, est prise sous ce prétexte ingénieux que ne pas recevoir son paiement équivaut en banque à escompter un effet. Quoique ce soit absolument le contraire, rien de plus semblable que de donner 1000 francs ou de ne pas les encaisser. Quiconque a présenté des effets à l'escompte sait qu'outre les 6% dus légalement, l'escompteur prélève, sous l'humble nom de commission, un tant pour cent qui représente les intérêts que lui donne, au-dessus du taux légal, le génie avec lequel il fait valoir ses fonds. Plus il peut gagner d'argent, plus il vous en demande. Aussi faut-il escompter chez les sots, c'est moins cher. Mais en banque, y a-t-il des sots ? La loi oblige le banquier à faire certifier par un agent de change le taux du change. Dans les places assez malheureuses pour ne pas avoir de bourse, l'agent de change est suppléé par 2 négociants. La commission, dite de courtage due à l'agent, est fixée à 0,25% de la somme exprimée dans l'effet protesté. L'usage s'est introduit de compter cette commission comme donnée au négociant qui remplace l'agent. Et le banquier la met tout simplement dans sa caisse. De là le troisième article de ce charmant conte. Le quatrième article comprend le coût du carré de papier timbré sur lequel est rédigé le compte de retour et celui du timbre de ce qu'on appelle si ingénieusement la retraite, c'est-à-dire la nouvelle traite tirée par le banquier sur son confrère pour se rembourser. Le cinquième article comprend le prix des ports de lettres et les intérêts légaux de la somme pendant tout le temps qu'elle peut manquer dans la caisse du banquier. Enfin, le change de place, l'objet même de la banque, est ce qu'il en coûte pour se faire payer d'une place à l'autre. Maintenant, épluchez ce compte, ou, selon la manière de supputer du polichinelle de la chanson napolitaine si bien joué par Lablache, 15 et 5 font 22. Évidemment, la signature de messieurs Postel et Gannerac était une affaire de complaisance. Les cointés certifiaient au besoin pour Gannerac ce que Gannerac certifiait pour les cointés. C'est la mise en pratique de ce proverbe connu « Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné ». Messieurs Cointet frères
se trouvant en compte courant avec Métivier, n'avaient pas besoin de faire traite. Entre eux, un effet retourné ne produisait qu'une ligne de plus au crédit ou au débit. Ce compte fantastique se réduisait donc en réalité à 1 000 francs dus, au protêt de 13 francs et à 0,5% d'intérêt pour un mois de retard. En tout peut-être 1 018 francs. Si une grande maison de banque a tous les jours en moyenne un compte de retour sur une valeur de 1 000 francs, elle touche tous les jours 28 francs par la grâce de Dieu et les constitutions de la banque. Royauté formidable, inventée par les Juifs au XIIe siècle et qui domine aujourd'hui les trônes et les peuples. En d'autres termes, 1 000 francs rapportent alors à cette maison 28 francs par jour ou 10 220 francs par an. Triplez la moyenne des comptes de retour et vous apercevrez un revenu de 30 000 francs donné par ces capitaux fictifs. Aussi, rien de plus amoureusement cultivé que les comptes de retour. David Séchard serait venu payer son effet le 3 mai ou le lendemain même du protêt. Messieurs Cointe et frères lui eussent dit « Ah, nous avons retourné votre effet à M. Métivier !» quand même l'effet se fut encore trouvé sur leur bureau. Le compte de retour est acquis le soir même du protêt. Ceci, dans le langage de la banque de province, s'appelle « faire suer les écus ». Les seules portes de lettres produisent quelque 20 000 francs à la maison Keller qui correspond avec le monde entier. Et les comptes de retour paient la loge aux Italiens, la voiture et la toilette de Madame la baronne de Nucingen. Le port de lettres est un abus d'autant plus effroyable que les banquiers s'occupent de 10 affaires semblables en 10 lignes d'une lettre. Chose étrange, le fisc a sa part dans cette prime arrachée au malheur, et le trésor public s'enfle ainsi des infortunes commerciales. Quant à la banque, elle jette au débiteur, du haut de ses comptoirs, cette parole pleine de raison. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure ? À laquelle, malheureusement, on ne peut rien répondre. Ainsi, le compte de retour est un compte plein de fictions terribles pour lequel les débiteurs, qui réfléchiront sur cette page instructive, éprouveront désormais un effroi salutaire. Le 4 mai, Métivier reçut de messieurs Cointe et frères le compte de retour avec un ordre de poursuivre à outrance à Paris M. Lucien Chardon, dit de Rubempré. Quelques jours après, Ève reçut, en réponse à la lettre qu'elle écrivait à M. Métivier, le petit mot suivant qui la rassura complètement. À M. Séchard fils, imprimeur à Angoulême. J'ai reçu, en son temps, votre estimé du 5 courant. J'ai compris, d'après vos explications relativement à l'effet impayé du 30 avril dernier, que vous aviez obligé votre beau-frère, M. de Rubempré, qui fait assez de dépenses pour que ce soit à vous rendre service que de le contraindre à payer. Il est dans une situation à ne pas se laisser longtemps poursuivre. Si votre honoré beau-frère ne payait point, je ferais fond sur la loyauté de votre vieille maison et me dis, comme toujours, votre dévoué serviteur, Métivier. « Eh bien, dit Ève à David, mon frère saura, par cette poursuite, que nous n'avons pas pu payer. » Quel changement cette parole n'annonçait-elle pas chez Ève? L'amour grandissant que lui inspirait le caractère de David, de mieux en mieux connu, prenait dans son cœur la place de l'affection fraternelle. Mais à combien d'illusions ne disait-elle pas adieu ?